Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Ouh là là, là là, là là, quelle semaine, waouh. Alors je sais, hein, Poutine appelle à la mobilisation, la température a chuté, on ne va pas avoir de quoi se chauffer cet hiver. Mais moi, je viens pour vous apporter des bonnes nouvelles. D'abord, j'ai trois bonnes nouvelles pour commencer. Un, c'est votre argent. Deux, c'est votre week-end. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et trois, ça va être une émission, bah, je le dis, je le sais. Je le sais, ça va être une émission exceptionnelle, exceptionnelle parce qu'on va traiter de tous les thèmes qui ont marqué cette semaine et vous donner toutes les clés pour les comprendre. Et cette semaine était encore une semaine folle sur le plan de l'économie, de la finance et bien évidemment des placements. Mais vous le savez, pour une émission exceptionnelle, on n'a pas besoin d'un animateur exceptionnel, mais on a besoin d'invités exceptionnels. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. Méfiez-vous de son calme apparent et de sa voix douce. Elle n'hésite pas à décocher des flèches bien senties. Marisol Michel, vous êtes, je ne sais pas si vous le regrettez, mais vous êtes directrice de la gestion sous mandat et de la gestion conseillée chez Swiss Life Banque Privée. Oui. En ce moment, je vais vous dire une chose. Je vous aime beaucoup, mais je n'ai pas du tout envie d'être à votre place. Parce que les clients en gestion privée partout, hein, je ne parle pas chez vous, ils sont totalement paniqués, non?
Non, parce qu'il faut raisonner long terme, on y reviendra.
Ouais. Ouais, ouais, c'est ce qu'on dit toujours dans les périodes de troubles, mais on sent, non, mais je parle à des investisseurs hein, privés, des particuliers qui nous envoient des messages, c'est, on va en parler tout à l'heure, c'est quand même un peu la panique. Hein.
Il y a des sujets d'inquiétude, oui.
J'arriverai pas à lui faire dire. Non, notre club d'économistes et de prévisionnistes est un conseil de sage. Et son expérience, son recul et sa capacité d'analyse, sa sagesse en fait, hein, sont sa marque de fabrique. Hervé Gouletker, vous êtes senior advisor d'Accuracy. Merci d'être là. Vos cheveux blancs comme les miens prouvent votre niveau de sagesse et on en a besoin dans ces périodes difficiles.
Nous allons voir. Qui de vous ou de moi est le plus sage, Marc?
Alors, vous le savez, bon, vous le connaissez maintenant, ça y est, hein, les Américains, vous savez, ils ont ce type-là, bon, vaguement connu, qui s'appelle Warren Buffett. Nous, on a la version française, mais qui est tellement mieux. Grégoire Santil, l'homme de l'investissement à long terme. Alors, ne regardez pas, vous avez perdu 40% sur votre action, 70, 80, mais on s'en fout. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est le long terme. Et d'ailleurs, il ne se promène jamais sans sa carte de visite, avec sa table d'intérêt composée. Grégoire Santil, vous êtes président et fondateur de NextAGM. Prouvez-moi que j'ai raison. Est-ce que vous avez votre petite carte de visite?
Oui.
Et qu'est-ce qu'il y a sur cette carte? Parce que vous la donnez à chaque fois que vous croisez quelqu'un, et moi j'en ai 10 parce qu'à chaque fois vous oubliez que vous m'avez croisé la semaine d'avant.
ça c'est le problème.
Oui, oui, qu'on connaît bien sûr.
De sénilité, mais.
Exactement. Précoce. Et il y a quoi sur cette carte? C'est quoi ces histoires d'intérêts composés?
La table des intérêts composés, c'est un truc qui montre quels sont les calculs à long terme quand on fait un investissement à long terme. On fait un investissement à 2% de TRI, de rendement. Sur 30 ans, vous allez faire un multiple d'un 82. Vous faites un investissement à 10% de TRI. Sur 30 ans, vous allez faire un multiple de 17. Et si vous le faites à 20% de TRI, façon Berkshire Hathaway, vous allez faire un multiple de 237. Et en fait, le paradoxe, il est le suivant. C'est que on a une formidable école de mathématiques en France, officiellement. Ouais. Mais en fait, on ne compte pas sur le long terme. Vous savez ce que Albert Einstein, qui était beaucoup plus talentueux que moi, en tous les cas, disait de cette table des intérêts composés, il disait deux choses. Il disait, un, c'est la force la plus puissante de l'univers, et deux, il y a deux catégories. Il y a ceux qui le comprennent et qui le gagnent, puis il y a ceux qui ne le comprennent pas et qui le payent.
Alors, le comprendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire viser...
Ça veut dire, c'est ce que Marisol évoquait tout à l'heure, c'est l'enjeu du long terme.
Ouais.
Ouais,
alors, moi, on me disait que le long terme, c'était quand on avait perdu, et le court terme, c'est quand on gagne dans les investissements. Donc, il y a aussi ce côté-là.
Oui, mais...
C'est une vision très l'air.
Discussion cet été avec le numéro 2 de Fidelity, vient de faire une étude au niveau mondial, dans tous les pays, sur tous les épargnants, systématiquement, tous ceux qui gagnent sont ceux qui ont une approche long terme. Mmh. Et un pays est 2 ans plus développé et avancé qu'il a une réflexion de long terme.
Alors, on est encore dans la présentation des invités, je suis désolé, mais on est déjà dans le vif du sujet. Oui, d'accord, j'ai envie de vous dire, mais ceux qui ont des actions de chemin de fer américain d'il y a 200 ans, ils ont joué le long terme, ils sont morts. Non. Bon, réfléchissez, on en reparlera tout à l'heure.
Le long terme à l'échelle de 10 ans ou de 20 ans, ça a du sens.
À chaque fois que je l'écoute ou je la lis, et je l'écoute et je la lis, je regrette de ne pas pouvoir m'inscrire à la Sorbonne pour suivre ses cours. Anne-Sophie Alsif, trouvez-moi une place dans votre amphi, c'est quand même pas compliqué.
Vous êtes le bienvenu.
Ah bon, vous êtes chef économiste de BDO France et professeur d'économie à la Sorbonne. Vos élèves ont beaucoup de chance. Et on commence par le mot de la semaine. Moi, j'ai pas eu à chercher longtemps. Le mot de la semaine, c'est la peur. La peur de l'hiver, la peur de la pénurie, la peur de l'explosion de la note d'électricité, la peur de la récession, la peur des difficultés de financement, des difficultés de remboursement, de l'inflation bien sûr, de la Russie, de ses référendums, de son appel à la mobilisation partielle, peur de la hausse des taux, peur du crack. Hervé Gouletière, j'en peux plus, est-ce qu'on a raison d'avoir peur? Et de quoi faut-il vraiment avoir peur?
Une question.
Vaste question. Vous avez 40 secondes.
Non, la peur est mauvaise conseillère, premièrement. Deuxièmement, la peur, lorsqu'on ferait... Si on était historien et qu'on faisait une histoire de la peur, on s'apercevrait que la peur apparaît surtout dans des moments de changement. Et je pense que s'il y a une clé dans cette histoire, c'est bien un moment de changement. Alors, il y a deux dimensions. Mais je voudrais insister sur une dimension parce que c'est celle qui nous touche autour des marchés de capitaux. C'est que pendant très longtemps, sur les marchés de capitaux, on était entre soi. C'était un huis clos entre l'économie, les marchés. Alors, vous pouviez couper l'économie en microéconomie, macroéconomie. Et puis, au fur et à mesure des années passées, on a élargit les invités autour de ce débat. Il y a la politique intérieure qui est arrivée, on se souvient par exemple de M. Trump ou de M. Johnson, des personnalités un peu particulières. Il y a la politique extérieure qui s'est invitée, c'est la Chine, ça a été le Brexit, maintenant c'est la guerre russe en Ukraine. Et on voit bien
et
que...
les élections en Italie, ce week-end.
Alors ça c'est la politique intérieure, et c'est les choses bizarres, vous avez raison, ça continue. Et puis il y a l'environnement, le changement climatique qui... s'invite aussi à notre table. Et donc, pour nous autres personnes de marché, ce que l'on a à prendre en compte pour finalement savoir si on achète, on vend telle classe d'actifs ou telle autre, ça s'est complexifié terriblement avec une histoire en plus qui peut prendre des tournures dramatiques, et ce qui fait que je ne sais pas si on a peur. Par contre, on a vite le sentiment d'être perdu.
De quoi devrait-on avoir peur aujourd'hui? De la récession? De l'inflation? Je parle pas évidemment des événements géopolitiques, on n'est pas une émission d'analyse géopolitique, on est dans ce contexte-là, on le connaît, on le maîtrise pas, on n'a aucune vision sur ce qui va se passer, mais de quoi doit-on avoir peur et est-ce qu'on a raison d'avoir peur?
Alors, en premier, c'est vraiment la crise énergétique, hein, puisque c'est vrai qu'à court, moyen terme, c'est vraiment ce qui va aller vers une récession ou pas, ou toujours ce scénario de stagflation. Ce qui est paradoxal, c'est qu'en fait, on a des indicateurs conjoncturels qui sont assez bons, puisqu'on est toujours dans la fin du quoi qu'il en coûte. Donc, quand on regarde, en effet, vraiment les indicateurs, on voit que, voilà, que ce soit le taux de chômage, que ce soit même au niveau de la défaillance des entreprises, que ce soit l'anticipation sur les commandes, on a plutôt des indicateurs conjoncturels qui ne sont pas négatifs. Et le grand problème, c'est en effet de se projeter. Et tout ce que vous avez listé, en fait, c'est pas effectif. Hein, en effet, c'est tout à fait incertain. Et pour l'instant, même concernant le risque de la récession, on n'en est pas encore. On est beaucoup plus, pour l'instant, sur un très très fort ralentissement. Et dans cette récession-là, ou ces risques de récession, là aussi, il faut regarder. On a une croissance mondiale qui ralentit, mais on a une dichotomie accrue entre les pays du Nord, justement, qui ont son problème énergétique qu'ils n'ont pas traité, et les pays du Sud, qui, pour certains, peuvent profiter aussi de cette explosion des prix des matières premières ou des prix de l'énergie. Donc la situation est vraiment très hétérogène. Alors c'est normal que nous on regarde plutôt du point de vue des pays occidentaux par rapport à toutes ces peurs. Mais là aussi quand vous regardez toutes les crises que vous avez pu avoir depuis 100 ans, je ne dirais pas que c'est exceptionnel, mais c'est juste qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on en a des très multiples et de nature très différente. Alors que d'habitude on est plutôt dans des crises de nature commerciale, financière, géopolitique, mais on n'a pas tout en même temps.
Oui, on n'a pas tout en même temps, mais vous le dites, et je trouve ça assez juste, hein, le sous-jacent économique, contrairement à 2008, 2009, 2000, il est très solide. Il est très solide parce qu'on est encore dans l'effet de la sortie de Covid avec tout ce qu'on a connu, hein, l'argent magique, les plans d'aide, plus le rattrapage et l'argent magique.
Il faut quand même le rappeler, c'est ça aussi qui est paradoxal.
Là, ce qui m'intéresse dans ce que vous dites, c'est vous dites on est dans une crise énergétique. Mais vous, les économistes, vous regardez, quand vous regardez l'inflation, par exemple, vous dites je regarde l'inflation corps. Or, énergie et alimentaire. Donc, j'ai envie de vous dire, mais vous dites qu'il faut regarder le corps parce qu'il faut l'autre est trop volatile. Bah, pourquoi vous le regardez si c'est trop volatile, cette partie-là? Est-ce qu'on ne devrait pas se dire, bon, bah, cette crise énergétique, elle va finir par passer?
Alors, c'est en effet ce que l'on regarde, parce que souvent, on se compare aux États-Unis. Comme aux États-Unis, l'inflation est de type classique, eh bien, pour savoir ce qui va se passer en Europe, comme c'est souvent le thermomètre, on se compare. Mais c'est vrai qu'en Europe, comme la majorité de cette inflation est importée, eh bien, en effet, ça a du sens de savoir la crise énergétique. Pourquoi? Parce que on est plus ou moins protégé par l'inflation s'il y a un bouclier énergétique qui continue. Oui. Et là, donc du coup, si on diversifie ou pas, ou ce qui se passe en Ukraine a un impact direct. Et puis, à moyen long terme, le problème, c'est les anticipations. On en parle en effet beaucoup en économie. Le problème, c'est que les ménages et les entreprises vont avoir des anticipations négatives en se disant, attention, l'inflation va durer parce que cette crise énergétique n'est pas conjoncturelle, parce qu'en fait, on reste dans un mix qui est très dépendant. Et donc, de fait, je ne vais plus consommer. Quand vous regardez le taux d'épargne en France, il est encore très élevé, au-delà de 15%.
Donc,
quand
ce sont des réserves énormes.
Mais c'est ça. Le problème, c'est que tout notre modèle de croissance se base sur cette consommation. Donc, si les anticipations sont négatives, en fait, même si vos fondamentaux sont bons, vous allez avoir un arrêt de l'économie. Et c'est là où il y a un risque de récession.
De quoi avez-vous peur, Grégoire Santil? D'un point de vue économique et financier, pas de problème personnel.
De vous, Marc.
Vous avez bien raison.
Je pense que ce qui peut faire peur, c'est de perdre son sang-froid. Et deuxième point, c'est de perdre, tout à fait d'accord avec ce qui a été évoqué tout à l'heure, en fait, c'est une crise, c'est incontestable, mais si je regarde, en démarrant par le bottom-up, je regarde les 86 participations du portefeuille de NextEdge.
On va en parler, comment pour les
elle,
autres.
Elle se porte bien.
Je vous poserai la question.
Elle se porte bien. Et donc, en fait, le problème, c'est quelle est la grille de lecture qui permet de se projeter, et donc la grille d'analyse qui permet de comprendre sur, un, parce que dans crise, il y a les risques, mais il y a aussi les opportunités. Et donc, que ce soit les pays du Sud ou certains acteurs se positionnent bien par rapport à ça. Et deuxième point, c'est, si on se projette un peu plus loin, on voit bien qu'il y a des choses gigantesques, positives, qui sont en train de se dessiner.
Positives ou incertaines et incertaines. Incertaines, donc positives, mais aussi peut-être négatives. La transition écologique, on n'arrive pas à trancher, on ne le sait pas. Est-ce que ça sera positif pour la croissance, négatif pour la croissance, positif pour l'inflation, négatif pour l'inflation, c'est pas tranché.
Oui, moi je vous conseille la lecture d'un livre qui s'appelle Le Voyage de l'Humanité, de Ledgador, qui est le Nouveau Sapiens, qui met justement en perspective comment est-ce que l'espèce humaine a évolué sur, depuis 300 000 ans. Donc ça, c'est vraiment du long terme.
Vraiment sur l'investissement long terme.
Je parle pas d'investissement, je parle sur l'évolution de l'espèce humaine. Et il y a plein de raisons d'être optimiste.
De quoi avez-vous peur de quoi a-t-on peur en ce moment d'un point de vue macroéconomique quand on est gérant?
Alors, je dois dire que là, comme vous l'avez souligné en introduction, il y a quand même une combinaison de facteurs négatifs assez étonnante en ce moment, depuis le début de l'année, à la fois sur tous les niveaux, niveau macroéconomique, niveau matières premières, niveau géopolitique. Donc c'est cette combinaison qui est quand même anxiogène. Mais ce que je vois surtout, moi, c'est que bon, on a connu d'autres crises. On a connu d'autres crises violentes ces 20 dernières années. Par exemple, la grande crise financière des subprimes. Ensuite, la crise des dettes souveraines en 2012-2013. Ensuite, on a eu la crise du Covid. Mais à chaque fois, on a réussi à s'en sortir assez rapidement, en tous les cas pour le Covid. Parce que dans le cadre de ces trois crises, les banques centrales étaient toujours à la manœuvre pour nous aider à sortir la tête hors de l'eau, en injectant beaucoup de liquidités, en baissant leurs taux, donc en faisant beaucoup d'efforts très très impressionnants en montant, pour aider les économies à s'en sortir. Là, du point de vue macroéconomique, le problème, c'est que dans cette crise qui nous frappe depuis le début de l'année, ce choc inflationniste, les banques centrales ne vont pas pouvoir nous aider. Pour l'instant, on est encore dans la fin de la phase accommodante qu'on a connue, mais les voyants sont dans le sens du durcissement. Donc, pour une fois, la crise ne va pas permettre aux banques centrales de nous aider, et ça fait vraiment une rupture.
C'est toute la question, et d'ailleurs, c'est la question qu'on va se poser.
Ça fait vraiment une rupture en termes de policy mix. On aura peut-être les gouvernements pour nous aider avec le bouclier tarifaire, etc., mais en tous les cas, on n'aura pas les banques centrales pour nous aider. Au contraire, elles sont dans un sens en opposition avec nos intérêts, puisqu'elles doivent absolument, pour faire face à l'inflation, monter leur taux.
Juste par rapport à ça, pour réagir, donc tout à fait la situation actuelle, mais là aussi, il faut remettre en perspective, normalement, le rôle d'une banque centrale, c'est d'intervenir suite à une crise. Et le fait d'être resté plus de 10 ans dans une situation de taux bas n'était pas quelque chose qui, normalement, économiquement, est fiable et normal. Voilà. Et donc, ça aussi, c'est ça la grande question, c'est de se dire...
Vous dites la grande question, moi je dis la grande erreur.
Ou la grande erreur, voilà, vous dites. Mais en tout cas, c'est ça la question, c'est de se dire on est resté dans une situation anormale, de taux excessivement bas qui ont permis en effet d'avoir des politiques budgétaires toujours plus accommodantes. On est dans une hausse des taux, mais attention, les États continuent de faire de la relance budgétaire, qui est aussi complètement paradoxal, parce que normalement le policy mix est coordonné, alors que là les États continuent. Donc c'est ça aussi la grande difficulté, c'est ces hausses de taux. Est-ce que ça va aussi tester la crédibilité des banques centrales? Et si la crédibilité n'est plus là, c'est là où il y a le vrai risque.
Alors, on va parler des banques centrales. Je voudrais vous poser la question, c'est la question de la semaine, hein, cette nouvelle rubrique, c'est comment vont les entreprises? Et là, je veux la réponse tout de suite et pas plus tard. On a le sentiment que pour les entreprises, il y a eu deux étapes. Hein. Une première étape où elles ont pu répercuter la hausse des coûts sur les consommateurs ou sur leurs clients. Et puis là, j'ai l'impression, j'ai le sentiment, en parlant, moi, des chefs d'entreprise, comme vous, Grégoire, que là, elles subissent hein, maintenant... encore la hausse des taux, la hausse des coûts, des tensions, des pénuries, des goulets d'étranglement, sans pouvoir maintenant le répercuter comme elle le voudrait. Marisol Michel, comment vont les entreprises ?
Si on regarde dans le rétroviseur, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit par Anne-Sophie, par exemple. Les entreprises se portent bien et elles ont réussi à sortir de la crise du Covid assez rapidement, aidées par les gouvernements et par les banques centrales. Elles se sont bien restructurées, elles ont abaissé leurs points morts et maintenant les niveaux de marge sont vraiment élevés. Donc on part d'un niveau haut. Et si on regarde les publications qu'on a eues depuis le début de l'année, donc dernier trimestre 2021 qu'on a eu en janvier, ensuite premier trimestre et deuxième trimestre 2022, à chaque fois les publications ont surpris par rapport aux attentes du consensus en bien.
En mieux.
Et même la dernière hein, qu'on a eue en juillet-août, donc sur la base des chiffres au 30 juin, les analystes ont été surpris positivement et ils ont relevé leurs chiffres, ce qui est complètement paradoxal,
je comprends,
parce que l'environnement s'était beaucoup dégradé.
Et maintenant,
alors donc, maintenant, moi je pense que les prévisions des analystes sont beaucoup trop optimistes. Pour vous donner un ordre d'idée, en zone euro, ils s'attendent à une progression de 15% des bénéfices de l'année 2022 par rapport à 2021, alors que l'environnement s'est considérablement durci. Donc ça me paraît beaucoup trop optimiste. Et on va avoir maintenant la deuxième phase qui va être plus difficile.
Donc vous êtes d'accord avec moi, deux étapes.
Oui, avec des sociétés qui vont commencer à prendre en compte le durcissement de l'économie et donc qui vont conduire à des prévisions moins favorables.
Pour Grégoire, vous nous dites non, moi je suis en contact, j'ai 86, non, je ne sais pas combien vous avez dit, combien de participations.
Aujourd'hui, à date, quand on fait le point avec les boîtes du portefeuille, on en a quand même 86, ça va. Et elles vont bien, et le business tient. Maintenant, pour moi, les deux éléments clés, c'est un, je pense qu'il y a plus de préoccupations chez celles qui ont, heureusement on n'en a pas beaucoup, qui ont beaucoup de dettes, et parce que c'est ça le critère différenciant. Mais pour l'instant, et la partie investissement et la partie consommation, chez ces PME et ces ETI, continuent de tenir, y compris... pour l'essentiel international.
Alors, je voudrais qu'on passe tout de suite, hein, parce qu'on a un peu de temps, et je voudrais poser la question surtout à nos économistes, sur le chiffre de la semaine. Le chiffre de la semaine, ça a été évidemment ces 0,75%. On a parlé tout à l'heure déjà des banques centrales, mais il faut qu'on en parle. Hein. La Fed continue, après avoir mis du temps à démarrer, elle sprint, une hausse de taux par mois, des hausses de taux d'ampleur inégalées. On va reprendre les chiffres, c'était jamais arrivé depuis les années 80. Trois hausses de 0,75% de suite, cinquième hausse consécutive. Tout le monde emboîte le pas, hein. C'était très frappant hein, cette semaine. On a eu l'Angleterre, on a eu la Suisse qui est sortie des taux d'intérêt négatifs, la seule banque centrale qui reste encore en taux d'intérêt négatif, d'où la hausse fulgurante du dollar yen, c'est le Japon. La Norvège a suivi aussi. Je suis assez d'accord avec Marisol Michel, c'est-à-dire que ce que vous décriviez tout à l'heure, Anne-Sophie Alsif, c'est-à-dire cette période trop longue, hein, longue, qui a donné des mauvaises habitudes, elle était permise parce qu'il n'y avait pas d'inflation, donc les banques centrales se disaient, bon, on peut y aller. Là, ça y est, c'est fini, justement. Est-ce que c'est hausse de taux, d'abord, quoi qu'il en coûte, monter les taux d'intérêt pour casser l'inflation, est-ce que c'est bon ?
Alors, elles n'ont pas le choix. C'est-à-dire que c'est leur mandat. Donc, quand on arrive à de tels niveaux, il faut le faire. Donc, ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Après, c'est quel niveau et quel rythme. Et c'est ça la question. Donc, l'objectif, hein, c'est pour ça que la Banque Centrale Européenne était très prudente. On voit dans les déclarations à chaque fois, c'est de dire oui, on veut quand même pas casser la croissance. Et c'est vraiment ça le risque, hein, c'est qu'on soit en récession en Europe avec en plus la crise énergétique. Et là, ce serait très, très difficile, puisqu'en effet, hein, il y aura moins de facilité à refaire du stimulus. Donc, c'est ça l'objectif. Hein. Alors là, c'est vrai que la pente est plutôt assez haute. Et,
aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Alors, je parlais plus
pour la zone euro. Oui, parce que c'est une inflation importée. Donc, il y avait l'idée de se dire attention, c'est conjoncturel. Et quand tout le monde va avoir diversifié son mix énergétique, c'est bon, ce sera derrière. Et puis, il y avait l'histoire du Covid. Hein. On a vu en Europe, on était inférieur à 2% en France hein, en 2021. Donc, même sur le niveau de l'inflation, ça restait maîtrisé. Il faut rappeler aussi qu'il faut de l'inflation, mais autour de 2,5%, pas à ces niveaux. Mais d'avoir de l'inflation est quelque chose de positif. Et là aussi, on n'en a pas eu pendant plus de 10 ans. Donc là, tout de suite, on revient dans une situation. Et par rapport au rythme, ça va continuer. C'est obligatoire. La grande question, ça va être ne pas casser ce qui reste au niveau des anticipations. On en a parlé, notamment des ménages et des entreprises. C'est pour ça que les gouvernements vont continuer à faire du stimuli budgétaire en même temps qu'une hausse des taux.
Et alors, comment on casse l'inflation si d'un côté, on injecte de l'argent par les aides et de l'autre, on monte les taux d'intérêt ? Les deux effets s'annulent ou pas ?
Alors non, parce que surtout en Europe, c'est assez particulier. C'est-à-dire que les aides, c'est pour compenser une hausse du prix de l'énergie. Donc il n'y a pas de création de valeur, il n'y a pas de création de richesse. C'est juste une rente en plus qui existe à cause de l'énergie. On essaie de le compenser pour garder le pouvoir d'achat pour que les gens continuent de consommer. Ouais. Donc c'est ça. Et comme on se dit, il y a 15% des taux d'épargne, donc il y a un matelas qui est encore important. Il faut, en se disant, il y a des aides. On l'a vu, hein, par exemple, cet été, on a plutôt du bon chiffre de consommation. Ça fonctionne. L'Allemagne, par exemple, essaie de faire la même chose hein, en baissant la TVA, en ayant des politiques comme ça de stimulus, ça ne marche pas du tout. Et eux, la difficulté en plus, c'est qu'ils ont vraiment une très forte baisse de leurs excédents commerciaux, qui est quand même le seul vecteur massif de leur croissance. Donc là aussi, c'est ça la difficulté pour la Banque Centrale, c'est aussi toute cette hétérogénéité des situations en zone euro, hein, vous l'avez dit, Allemagne, France et l'Italie, bien sûr. Et donc, on applique la même chose à tout le monde, mais il y aura des conséquences négatives, hein, c'est sûr, de ralentissement de croissance.
Bah, négative
pour la
ou positive.
Négative. Non, mais... négative pour la croissance, positive pour l'inflation, bah, mais voilà. Négative pour la croissance. Et le problème, c'est aussi le timing. C'est-à-dire que comme cette hausse de l'inflation est importée, même si les banques centrales continuent d'augmenter, les résultats, ce ne seront pas à très très court terme. Ce sera courant 2023-2024.
Hervé Goulet-Kier, bon, je l'ai répété souvent ici, je pense que les banques centrales ont fait des erreurs considérables à continuer à distribuer de l'argent magique quand on n'avait plus besoin, à ne pas réagir assez vite, mais on ne va pas revenir vers le passé. Aujourd'hui, elles sont confrontées à cette situation qu'elles ne maîtrisent plus. Hein. On a quand même le sentiment qu'elles sont toutes en panique. Est-ce que ces hausses de taux, évidemment, vont continuer ? Est-ce qu'elles vont avoir un effet bénéfique ? C'est-à-dire, est-ce qu'elles vont permettre de casser l'inflation ? Parce que c'est ça qu'on essaye de faire. Hein.
Alors, trois choses. La première chose, c'est que le diagnostic sur l'inflation, il n'est pas posé. Est-ce que c'est une inflation en termes d'offres ? Prix du pétrole, problème de chaîne d'approvisionnement. Est-ce que c'est une inflation en termes de demande ?
Mais les deux,
on aurait trop.
Je comprends pas.
Non, mais quelle est la part des deux ?
Oui.
Quelle est la part
Ça dépend des zones géographiques.
Parce que vous pouvez vous dire que la politique monétaire resserrée est efficace contre une inflation en termes de demande. Elle l'est moins contre une inflation en termes d'offre. Donc, d'une façon, le point de départ, c'est que on observe une accélération des prix. Plus importante que prévu, plus durable que prévu, sans avoir le bon diagnostic sur pourquoi ça se passe comme ça. Le deuxième élément, c'est que face à cette difficulté, l'attitude des banques centrales, elle est très simple. Elles disent, on a un mandat, scrogneugneux, il faut que l'inflation ralentisse, et d'autre part, il faut faire attention à ce que les anticipations inflationnistes restent ancrées. Quand on prend tous les indicateurs, aujourd'hui, c'est plutôt ancré. Par contre, il y a leur mandat. Troisième étape, qu'est-ce qui va se passer tant qu'on a le sentiment ou une illusion que la croissance tient ? Moi, je crois qu'elle tient beaucoup moins que ce qu'on dit. D'ailleurs, trouver une cohérence entre l'ensemble des indicateurs économiques, aujourd'hui, c'est compliqué. Il se passe des choses exceptionnelles. L'appareil de statistique, il a aussi du mal à comprendre ce qui se passe.
Il y a une statistique qui ne ment pas, et là, on ne peut rien dire, c'est le chômage. Et l'emploi. Oui, mais... Et l'emploi, pour l'instant, il bronche pas parce qu'on avait des pénuries. Et donc aujourd'hui, même si l'économie ralentit, on sait qu'il y a beaucoup plus d'offres que de demandes.
Mais Marc, la croissance économique, c'est la croissance de l'emploi et la croissance de la productivité. Prenez les États-Unis, on a une croissance de l'emploi terriblement forte. Vous pouvez dire ça va drôlement bien, mais vous avez en même temps un effondrement de la productivité. La productivité, elle baisse aujourd'hui sur un rythme de 6%. Donc en fait, là encore, il y a quelque chose que l'on ne comprend pas. Okay. Donc le diagnostic sur la croissance, il n'est pas très bien posé, simplement.
Donc vous dites, pour résumer, vous dites vous...
Je voudrais juste conclure dernier élément. Les banques centrales resteront dans la posture de resserrer tant qu'il n'y aura pas le tocsin sur la croissance économique. Le jour où sur la croissance économique, ça se retourne, on est en récession, on est presque à ce stade-là, dans ce cas-là, elles lèveront le pied. Donc,
elles lèveront le pied si on a fait baisser l'inflation. Elles ne lèveront pas le pied parce que, comme le disait Marisol tout à l'heure, la limite, c'est que s'il y a de l'inflation, elles ne peuvent plus agir.
Alors, mais après, sur l'inflation...
La kryptonite des banques centrales, c'est l'inflation. Hein.
Alors, deux éléments là-dessus. Le premier, il ne faut pas oublier que l'attitude des banques centrales agit directement de suite sur les marchés mais avec retard sur l'activité. Donc en fait, voilà, il faut bien qu'elles s'imaginent ce qui va se passer dans 6 mois, dans 1 an ou quelque chose comme ça. Sur l'inflation, avec le diagnostic qui n'est pas posé, vous pouvez aujourd'hui avoir un argumentaire disant c'est déjà en train de ralentir.
On espère que vous avez raison et on se retrouve en deuxième partie de l'émission.